Bon, on le constate hein, quand même, je pense, à peu près tous. Hein, cette campagne des européennes, elle intéresse que très, très, très peu le monde du travail, hein, le monde ouvrier. Et on le comprend. Hein, l'écrasante majorité des travailleurs a des soucis par-dessus la tête. Hein, parce que dès qu'on n'a pas d'argent dans cette société, eh bien, il faut le dire, hein, tout se transforme en cauchemar. Il y a ceux qui galèrent pour trouver du boulot. Il y a ceux qui en ont un, mais qui galèrent quand même pour finir les fins de mois. Et puis, il y a tous ceux qui sont à la retraite et qui continuent de galérer avec des pensions indignes. Et c'est pire quand on est malade ou invalide ou handicapé. Alors, les travailleurs, ils ont appris depuis pas mal de temps qu'ils n'avaient rien à attendre des pouvoirs publics. Hein, que ni Pôle emploi, ni je ne sais quel accompagnement social changera leur sort. Autant dire qu'ils n'attendent rien de ce foutu Parlement européen. Et puis, dans cette campagne pour les européennes, il y a tout un aspect indécent. Hein, c'est entendre, par exemple, de la part de Nathalie Loiseau, hein, qui est le soutien hein, de la liste Macron, hein, de l'entendre promettre l'Europe sociale. Hein, quand ce gouvernement a passé quand même son temps à s'attaquer aux droits des travailleurs et à faire cadeau sur cadeau aux plus riches. Alors, bien sûr, tout ça, ça dégoûte. Et puis, ils nous baladent quand même un peu tous avec l'Union européenne. Hein, les uns, quand ils veulent nous prouver absolument que l'Union européenne est responsable de tout ce qui nous tombe sur le nez, hein, et puis les autres, quand ils veulent faire passer l'Union européenne comme notre seule planche de salut. Tout ça, c'est de l'enfumage, hein, et ça se voit. Les employés d'Auchan, par exemple, hein, qui sont sur la sellette, ils voient très bien que ce n'est pas l'Union européenne qui leur tombe dessus. Et les salaires bloqués, les petites retraites, les petits boulots de quelques heures, tout ce qui pourrit nos vies au quotidien, ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est simplement une organisation qui se superpose aux États capitalistes pour organiser la domination de la grande bourgeoisie sur l'Europe. Alors oui, cette campagne, elle a de quoi écœurer. Et beaucoup de travailleurs ont envie d'envoyer balader tout ça. Alors les uns, et peut-être les plus nombreux, enverront balader tout ce cirque en s'abstenant, hein, et d'autres le feront de la pire façon possible, en votant Rassemblement National, hein, ou en votant pour tous ceux qu'ils croient être anti-système. Alors, dans ce contexte, hein, qu'est-ce que nous venons faire dans ces élections, hein, pourquoi présentons-nous une liste et pourquoi voter et faire voter pour le camp des travailleurs? Alors d'abord parce que s'abstenir, c'est se taire. Et c'est laisser d'autres parler à sa place et au bout du compte, c'est déserter le combat politique. Quand on est exploité, quand on a la possibilité de protester clairement contre tout ce système, eh bien, il faut le faire. Il faut montrer qu'on existe, qu'on défend nos intérêts et qu'on est conscient des luttes qu'il y a à mener. Les élections, et ces élections européennes, mais enfin toutes les élections, hein, élections présidentielles incluses, hein, les élections n'ont jamais changé le sort des travailleurs et elles ne changeront jamais leur sort. Parce que la condition d'exploiter, elle ne dépend pas des gouvernements, ni des lois qu'ils peuvent faire ou défaire. Le fait d'être pauvre ou riche, d'appartenir à la classe ouvrière ou à la bourgeoisie, n'est inscrit nulle part. Aucune loi n'impose l'exploitation. Aucune loi ne force les travailleurs à aller se faire voler le fruit de leur travail. Mais quand on ne possède pas de capitaux, eh bien, on n'a pas le choix. La seule façon de vivre dans cette société, eh bien, c'est de vendre sa force de travail pour enrichir ceux qui détiennent les capitaux et c'est de se défendre dans cette société de classe. Alors oui, les travailleurs ne sauveront leur peau qu'en se battant pied à pied avec le grand patronat, avec ses armes de classe, les manifestations, les grèves, les occupations d'usines, les révoltes ouvrières. Mais il ne suffit pas d'en appeler aux grèves ou à la révolte générale. Une fois que la révolte est là, bah ce n'est que le début du combat. Il faut savoir où aller, quels objectifs poursuivre, qui mettre en cause et comment. Oui, quand les travailleurs sont en lutte, ils ont aussi besoin d'une politique. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Il peut y avoir de la contestation sociale. Et il peut y avoir de la détermination. Et les travailleurs même peuvent y jouer un grand rôle. Et en même temps, ils peuvent très bien ne pas avoir une vision claire du combat qu'il y a à mener. Alors, pour nous, les élections ne sont sûrement pas un but en soi, vous l'aurez compris, mais elles offrent la possibilité de se regrouper derrière un programme et une politique. Et contrairement à ce que l'on a entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, les travailleurs doivent avoir leur politique, leur parti dans lequel placer leur confiance. Il faut qu'ils aient conscience d'appartenir à un camp politique opposé à la bourgeoisie et à tous les bénis oui-oui du capitalisme. Et cette politique pour les travailleurs, elle ne peut pas être une politique électorale. Elle doit être une politique et un programme pour les luttes, c'est-à-dire des mesures susceptibles d'être imposées sous la pression collective des masses exploitées. Nous serons minoritaires à exprimer cela dans les prochaines élections. Et nous le resterons, en fait, tant que les travailleurs ne renoueront pas avec ces luttes puissantes et tant que leur force sociale ne sera pas palpable pour le plus grand nombre. Mais si nous parvenons à semer dans les consciences ouvrières les objectifs de lutte à même d'inverser le rapport de force avec le grand patronat, si demain, plus de travailleurs sont conscients du combat à mener, eh bien nous aurons réussi notre campagne. Cela comptera peut-être peu dans les urnes, mais ce sont ces perspectives de lutte qui compteront demain pour toute la société. Alors les souverainistes et les xénophobes de tout poil ont le vent en poupe dans cette période de crise. Et ça, c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Ici, une partie des nôtres a le sentiment que voter pour le parti de Le Pen leur permettra de se démarquer et de dénoncer tout le système. C'est une grossière erreur. Voter Rassemblement National, c'est remettre un jeton dans la machine. Parce que les politiciens du RN sont des politiciens comme les autres. Ils louchent vers les sommets de cette société. Ils sont rigoureusement comme les autres, avec leur discours sur la compétitivité et sur la grandeur française. Exactement comme Macron, cela leur arracherait la bouche de dénoncer les profits, de dénoncer l'exploitation et les responsabilités de la classe capitaliste. Ils préfèrent s'en prendre à des travailleurs parce qu'ils sont migrants ou étrangers. Alors non, voter extrême droite, ce n'est pas se démarquer du système. C'est le conforter encore. Et encore une fois, c'est favoriser ceux qui haïssent les ouvriers et ceux qui veulent les diviser, parce que la classe ouvrière est une classe sociale qui s'est constituée avec l'immigration. Alors, en cette fin de campagne, eh bien, utilisons toutes les occasions pour discuter avec les nôtres de cela, justement, pour leur dire que les politiciens du Rassemblement National font partie de nos pires ennemis. Ils sont à mettre dans le même sac que Macron et que tous ces politiciens qui veulent nous faire payer les pots cassés de leur système et qui nous prêchent la résignation. Utilisez les quelques jours qui restent pour affirmer que les exploités ne doivent placer leur confiance que dans un parti ouvrier qui dénonce les exploiteurs et le capitalisme. Voilà ce que nous avons à faire pendant ces 8 derniers jours. Nous sommes dans une période sociale où, même s'il y a de la contestation, le fatalisme continue de dominer dans les rangs des exploités. La conscience qu'il y a de l'argent dans la société existe. Lors de la surenchère des grandes fortunes, vous savez, autour de Notre-Dame de Paris, tout le monde l'a vu. Mais ce n'est pas pour autant que les travailleurs se sentent en mesure de contester à Pinault ou à Arnault le droit d'accaparer cet argent et de dominer du haut de leurs milliards. Ce que vit l'écrasante majorité des classes populaires, c'est la misère, les bas salaires, le chômage et la précarité. C'est cette réalité où il faut se battre pour tout, pour un emploi, un logement, une place en crèche, un rendez-vous chez un spécialiste. Alors oui, cette réalité de la crise pousse les plus pauvres à se replier sur soi. Et il faut avoir une sacrée boussole politique et une sacrée combativité pour rejeter le discours de résignation qu'on entend tous les jours. Vous savez, ce fameux discours consistant à dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Certes, aucun pays ne peut accueillir toute la misère du monde. Mais la question, ce n'est pas d'accueillir toute la misère, c'est de la combattre. Et c'est de combattre tous ces fauteurs de misère, ici et dans le monde, que sont les capitalistes. Mais qui appelle les travailleurs à ce combat-là ? Quel parti pour leur redonner confiance dans leur force collective et leur capacité à changer toute la société. Ces perspectives, elles ne peuvent venir que d'un parti qui rejette tout l'ordre bourgeois, d'un parti qui affirme que le capitalisme n'est pas éternel, d'un parti qui se réfère au mouvement ouvrier, à tout ce passé fait de révolte, d'insurrection et de révolution, car oui, la classe ouvrière peut être fière de ce passé. Les politiciens bourgeois s'accordent tous à prétendre que vaincre le chômage serait impossible, du moins si difficile que cela prendrait des années ou des décennies. Avec les porte-parole du MEDEF, ils nous expliquent que si l'on veut en finir avec le chômage de masse, il n'y a qu'à se montrer aussi compétitif que d'autres pays. Autrement dit, que si le SMIC était en France de 286 euros bruts par mois, comme en Bulgarie, par exemple, aujourd'hui, eh bien, les patrons consentiraient peut-être à embaucher. Eh bien, nous refusons ce choix. La résorption complète du chômage est un problème simple. Un problème qui pourrait être réglé presque du jour au lendemain avec deux mesures qui iraient dans le sens de l'intérêt général de la collectivité. Imposer de force l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans perte de salaire, c'est-à-dire non seulement empêcher les patrons de licencier, mais les obliger à embaucher les chômeurs. Cela coûterait de l'argent à la bourgeoisie, sans aucun doute. Et alors ? La résorption du chômage ferait économiser des milliards à la collectivité. Elle permettrait à tous de vivre mieux. Elle résoudrait bien des fléaux sociaux. Et c'est cela qui devrait compter si le monde ne marchait pas sur la tête. Mais sous le capitalisme, parce que c'est le profit qui gouverne le monde, il est considéré comme normal que toute la société se dégrade uniquement pour que la grande bourgeoisie continue d'accumuler des milliards et des milliards. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame est évidemment un désastre pour tous ceux qui sont attachés aux merveilles que l'ingéniosité et les mains des travailleurs ont su créer au cours des siècles. Mais cette catastrophe culturelle est-elle plus grave que le fait que près d'un million de personnes mangent au restaurant du cœur dans ce pays ? Est-elle plus grave que la mort de 566 SDF dans la rue l'an dernier ? Que les millions de gens qui ne se soignent plus, parfois ne se chauffent plus l'hiver par manque d'argent, est-elle plus grave que les usines qui ferment, que les travailleurs jetés à la rue sans perspective de retrouver jamais un emploi ? Cette histoire a eu au moins un avantage, c'est que pour une fois, on les a vus sortir du bois. Ces grandes familles bourgeoises, d'habitude si discrètes, celles dont personne ne parle, à part nous, lutte ouvrière. On nous demande d'ailleurs souvent... Mais qu'est-ce que c'est la grande bourgeoisie ? Eh bien, ce sont eux. Ce sont ces gens qui, en 24 heures, ont sorti de leur poche 100 millions, 200 millions d'euros. Ce sont les Arnaud, Pinault, Bolloré, Bettencourt, Bouygues. 1 milliard d'euros en 48 heures. Alors oui, l'argent nécessaire pour vaincre le chômage, il est là. C'est bien à cette grande bourgeoisie de payer pour résorber le chômage. C'est à elle d'assurer des salaires corrects, c'est-à-dire au moins 1 800 euros net par mois, le minimum nécessaire pour vivre. Et ces salaires, pensions et allocations devront nécessairement être indexés sur la hausse réelle des prix parce que nous n'avons aucune raison d'accepter que les hausses des salaires soient dévorées par l'inflation. La lutte contre le chômage et les bas salaires nécessite aussi de contrôler ce que font les capitalistes et pourquoi ils le font. Lorsque l'on apprend qu'une entreprise multimilliardaire comme Auchan, avec à sa tête la cinquième fortune du pays, la famille Mullier, et ses 38 milliards d'euros, vient d'annoncer la vente de 21 magasins menaçant l'emploi de plus de 700 salariés, on mesure la nécessité d'un contrôle des travailleurs sur les décisions de ces gens-là. Parce que seul un tel contrôle permettrait de lever le voile sur les vraies raisons de leurs décisions, permettrait de révéler combien d'argent il y a et où il se cache. Il permettrait de montrer combien d'argent les muliers gagnent sur le dos de chaque caissière, de chaque manutentionnaire qu'ils exploitent et de chaque fournisseur qu'ils grugent. Cette nécessité du contrôle ouvrier, nous la défendons pendant cette campagne comme nous le faisons depuis des années. et comme le mouvement communiste révolutionnaire le fait depuis toujours. Si cette idée est fondamentale, c'est parce qu'elle repose sur le fait que nous, les travailleurs, nous sommes la source de toute la production de richesses. Nous sommes ceux qui faisons tout fonctionner. Autrement dit, nous sommes les seuls qui pouvons collectivement exercer ce contrôle, parce que nous occupons déjà tous les postes stratégiques de la société capitaliste. L'élaboration des marchandises, leur production, leur transport, leur distribution, c'est nous qui les réalisons. La comptabilité des entreprises, c'est nous qui la faisons. La circulation des richesses, c'est nous qui l'assurons. Les réseaux qui permettent la production, les échanges, même les transferts de capitaux, ils sont déjà entre nos mains. Non pas parce que nous les possédons, mais parce que nous les construisons, nous les contrôlons, nous les faisons fonctionner, nous les entretenons. En mai 1968, une affiche célèbre disait « Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui ». Eh bien, c'est la même idée. Et c'est une idée qui ne date pas d'hier, elle date des débuts même du mouvement ouvrier organisé. C'est la conscience qu'il faudra retrouver la place centrale qu'occupe le prolétariat dans la production et l'organisation capitaliste. Et imposer le contrôle sur l'argent et les décisions de la bourgeoisie sera une étape fondamentale pour que les travailleurs acquièrent cette conscience. La bourgeoisie nous mène à la catastrophe économique, sociale, écologique. Si le mot anti-système a un sens, c'est celui-ci. Vouloir en finir avec cette classe sociale qui domine toute la société, en finir avec la loi du profit, avec cette concurrence infernale et ce marché, en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans cette campagne, il est beaucoup question de la transition écologique. Et il arrive aux candidats d'expliquer sur leur lancée, qu'il faut repenser l'économie. Ou alors, ils disent parfois, tout remettre à plat. Mais cela ne signifie jamais se poser la question essentielle, centrale. Allons-nous, oui ou non, laisser les manettes de l'économie dans les mains d'une minorité capitaliste qui ne jure que par ses profits, ses dividendes, ses retraits de chapeau et ses cours boursiers? Et au bout du compte, leur politique, même en matière d'écologie, eh bien, elle consiste toujours à concevoir des plans d'aide aux capitalistes. Des plans pour les inciter à s'orienter, par exemple, dans de nouvelles filières. De fait, ils proposent tous de faire dépendre l'avenir de l'humanité et de la planète de ces mêmes capitalistes qui tuent la planète à petit feu depuis qu'ils dominent la vie économique et sociale. Car qui exploite, depuis 2 siècles, les gisements de charbon et de pétrole en ravageant des régions entières, en polluant les sols, les fleuves, les nappes phréatiques et en empoisonnant les populations riveraines? Qui a transformé en désert des millions de kilomètres carrés de terres agricoles en les surexploitant et en les chargeant d'intrants chimiques? Qui envoie en Afrique ou en Asie ces déchets industriels, cancérigènes, radioactifs ou en plastique non recyclable, pour économiser le coût du retraitement? La réponse, c'est toujours la même, ce sont les capitalistes. Et il faudrait confier la transition écologique à ces irresponsables qui empoisonnent et réchauffent la planète, à ces irresponsables dont le mode de production est en train de provoquer une nouvelle extinction des espèces vivantes. Eh bien, contrairement à tous ces candidats, nous ne confierons jamais notre avenir et celui de la planète à la bourgeoisie. Nous ne devons faire aucune confiance à la bourgeoisie. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi rejeter cette histoire de protectionnisme. Dans cette campagne, le protectionnisme est mis à toutes les sauces. Les uns le veulent solidaire, les autres intelligents, les uns le veulent aux frontières nationales, les autres aux frontières européennes. Mais l'idée est toujours la même. Elle consiste à taxer les produits aux frontières, c'est-à-dire à les rendre plus chers pour aider les entreprises françaises à être plus compétitives et peut-être un jour créer des emplois. On en revient, au bout du compte, toujours à la même politique, à la politique de Macron. Taxer les consommateurs, taxer les petites gens, taxer les travailleurs, tous ceux qui précisément sont forcés d'aller au prix le moins cher parce qu'ils n'ont pas le choix. Et tout ça pourquoi? Pour aider les capitalistes, pour espérer que demain, ils veuillent bien recréer des emplois. Mais qu'est-ce que les capitalistes feront de ces marchés protégés ? Des havres pour l'emploi, des havres pour les travailleurs, des marchés où les consommateurs pourront trouver de quoi se satisfaire avec des produits sains, de qualité. Des marchés protégés, il y en a déjà. Prenez la grande distribution. Eh ben, en voilà une activité locale. Les grandes surfaces, est-ce qu'elles sont moins rapaces que les autres groupes capitalistes ? Est-ce qu'elles sont plus soucieuses des conditions de travail de leurs employés ? Est-ce qu'elles versent de meilleurs salaires ? Est-ce qu'elles embauchent ? Est-ce qu'elles rémunèrent les petits producteurs au juste prix ? Bien sûr que non. La politique protectionniste est une politique pour la bourgeoisie, pour ses affaires. C'est une politique qui nous fait dépendre encore et toujours de ses quatre volontés. Et encore une fois, il n'y a que des coups à attendre de ces gens-là. On peut leur dérouler le tapis rouge, leur promettre tous les marchés protégés possibles et imaginables. Ils écraseront les travailleurs tant qu'ils le pourront, comme ils se moqueront de l'environnement. Renforcer les frontières n'obligera aucun groupe industriel et financier à embaucher, à augmenter les salaires et respecter les conditions de travail et de vie des salariés. Les travailleurs ne se protégeront pas s'ils ne savent pas contre qui ils doivent se battre. Les travailleurs, eh bien, ils ont à se protéger de leurs exploiteurs. Ils ont à se protéger de la rapacité des grands groupes. Ils ont à se protéger d'un système qui est basé sur l'irresponsabilité et sur la loi du profit. La bourgeoisie est dépositaire des possibilités immenses créées par l'humanité et elle les gâche. Le pire de ce qu'elle nous coûte, ce n'est pas dans l'accaparement des richesses, c'est dans ce gaspillage. Tous les politiciens accordent à la bourgeoisie la qualité d'investisseur parce qu'elle est assise sur une montagne d'or. C'est à ce titre que les actionnaires empochent les bénéfices et monopolisent le pouvoir dans les grands groupes. Eh bien, ils ne méritent pas cet honneur. Parce qu'à moins de profits rapides et assurés, ils ne veulent pas investir. Leurs investissements, je le mets entre guillemets, ce sont le plus souvent des rachats d'entreprises déjà existantes. Ah, prendre la gestion des autoroutes ou des aéroports de Paris, ça oui, ça les intéresse. Parce que cet investissement-là, il consiste à racheter à bon prix des infrastructures construites avec de l'argent public pour les transformer en tiroirs-caisses privées. Mais investir pour résoudre par exemple la crise du logement, pour répondre aux besoins essentiels, pour reprendre ces entreprises qui sont en train de fermer. Ah ben ça, ce n'est pas leur problème. L'État leur livre pourtant tout sur un plateau. Les salariés, les chercheurs, les infrastructures, ils sont arrosés d'argent public. Le CICE, le crédit d'impôt recherche. Et quand ils font de mauvaises affaires, ils peuvent toujours compter sur l'aide de l'État. Mais encore une fois, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, qu'est-ce qui les pousserait à investir dans la production ? Quand dans la finance, ils peuvent gagner 100 fois, 1000 fois plus. Alors, si on compte sur la bourgeoisie pour investir, pour créer des emplois, faire la transition écologique, cela prendra des siècles. Comme pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour la planète et ce sera trop tard même pour l'économie. Parce que ce qui nous pend au nez, c'est une nouvelle crise financière. Et ça, tous les experts financiers sont unanimes. Nous courons tout droit vers un nouveau krach. La charge explosive est même encore plus grande qu'en 2008. Et nul doute que les ravages seront encore plus dévastateurs. Alors, ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour, c'est le renversement de cette classe de parasites par les travailleurs. Les travailleurs qui sont finalement les seuls à investir réellement dans les entreprises. Parce que eux, ils y investissent le meilleur d'eux-mêmes. Ils y investissent le plus clair de leur temps. Ils y passent l'essentiel de leur vie dans les entreprises. Ils y laissent leurs compétences, leur énergie. Les travailleurs, ils sont forcés d'adapter leurs projets personnels et leur vie de famille en fonction de leur travail. Et parfois, ils y investissent même leur santé dans l'entreprise. Tout ça pourquoi ? Pour enrichir des générations de bourgeois. Pour être traités comme des pions, ballottés d'actionnaire en actionnaire pour ne jamais avoir leur mot à dire et risquer d'être mis à la porte du jour au lendemain. Eh bien, tôt ou tard, les travailleurs ne l'accepteront plus. Ils prendront eux-mêmes les choses en main et prouveront qu'ils sont capables de diriger 1000 fois mieux l'économie que cette classe sociale de parasites qui est aveuglée par le profit. même pour unifier l'Europe, on ne peut pas s'en remettre à la bourgeoisie. Même sur ce terrain qui correspondrait pourtant à ses intérêts généraux, elle s'est révélée complètement incapable. Et il ne faut pas en être surpris. La construction européenne n'a été qu'une longue histoire de marchandage sordide entre bourgeoisie européenne pour disposer tout à la fois d'un marché élargi, tout en continuant de disposer de tous les avantages d'un État national. Le résultat de ces rivalités et de ces compromis, eh bien, c'est l'Union européenne que l'on connaît, cette Europe complètement rabougrie, qui est même en train de se déliter avec le Brexit. Et puis, c'est un mariage de raison, où chacun fait chambre à part, défend son précaré, ne met surtout pas son compte bancaire en commun, et où n'importe quelle scène de ménage peut conduire au divorce. Mais, nous dit-on, l'Union européenne a au moins garanti la paix. Eh bien, même ça, c'est faux. Sur le continent européen lui-même, il y a eu des guerres sanglantes. Celle de l'ex-Yougoslavie, au début des années 1990, et celle en Ukraine, qui continue encore aujourd'hui, depuis 2014. Les dirigeants européens se vantent d'être des forces de paix, parce qu'au cours des dernières décennies, ils n'ont pas fait s'entretuer leur propre peuple, comme ils l'ont fait dans les deux premières guerres mondiales. Mais ils vont s'entretuer d'autres peuples dans le tiers-monde, du Rwanda à la Syrie, en passant par l'Irak ou la Libye. Des millions de femmes et d'hommes ont péri sous les coups de machettes ou sous les bombes. Des pays entiers ont été ravagés. Tant que domine une poignée de capitalistes, et tant que les rapports entre les peuples sont des relations de domination, de concurrence, de pillage, d'exploitation, il ne peut pas y avoir ni de paix, ni d'Europe unie et fraternelle. Cette Europe-là, ce sont les travailleurs qui la feront naître en prenant le pouvoir, en faisant la révolution. Et le plus détestable dans cette Europe, c'est qu'ils l'ont transformée en forteresse. Les mêmes qui avaient applaudi à la chute du mur de Berlin sont en train de reconstruire de nouveaux rideaux de fer au sein même de l'Union européenne. Ils ont fait de la Méditerranée un cimetière marin. Et cette politique est non seulement le fait des nationalistes comme Salvini en Italie, mais aussi de ceux qui, comme Macron, se prétendent progressistes. Nombre de politiciens aiment à rappeler les racines chrétiennes de l'Europe. Mais sans remonter plus loin, elles sont aussi gréco-romaines, c'est-à-dire une civilisation qui s'est épanouie autant au sud et à l'est qu'au nord de la Méditerranée. Et les cathédrales d'Europe, comme Notre-Dame de Paris, n'auraient pas pu être bâties sans l'apport, ne serait-ce qu'indirect, des architectes arabes. Quant à l'économie capitaliste elle-même, elle est mondialisée. Depuis toujours, elle s'est même développée à partir du commerce international, à partir du commerce avec l'Afrique, avec l'Asie et le Moyen-Orient, avec le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et XVIIIe siècle qui ont été à la base de la révolution industrielle. Puis, il y a eu la colonisation, et en particulier la colonisation qui a lié l'Europe, et en particulier donc la France, au Maghreb et à l'Algérie. Parce que oui, quand les colonisateurs français sont allés piller le Maghreb et l'Afrique, drapeau bleu, blanc, rouge en tête, ils en ont créé des liens. Dans l'oppression, dans le sang, dans l'exploitation, que ce soit en créant des troupes d'indigènes dans les deux guerres mondiales, que ce soit en recrutant pour les mines de Lorraine, les usines automobiles ou dans le bâtiment. Ces liens, ils sont là aujourd'hui. Des millions de femmes et d'hommes vivent avec de la famille d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Et maintenant, les dirigeants veulent transformer la Méditerranée en un fossé infranchissable. L'idée elle-même est révoltante et de toute façon, ils n'y arriveront pas. Aujourd'hui, les échanges, les moyens de communication, les liens économiques, culturels, humains entre les peuples n'ont jamais été aussi poussés. D'un bout à l'autre de l'Europe, on rencontre les mêmes groupes, les mêmes enseignes, les mêmes grands capitaux. D'un côté, les capitalistes ont construit des holdings, des trusts mondiaux qui amènent les travailleurs de tous les pays à communiquer et à coopérer. Combien de réseaux d'entreprises de services sont étroitement interconnectés et ne fonctionnent que grâce à la coopération de millions de travailleurs qui peut-être ne parlent pas la même langue, mais font ensemble une portion du même travail. Alors oui, ils poussent de gré ou de force les travailleurs du monde entier à se fondre dans une seule et même grande classe ouvrière internationale. Et leurs dirigeants politiques voudraient rendre les frontières hermétiques et présenter tout ce qui vient de l'étranger comme une menace. Eh bien, tous ces gens-là sont complètement dépassés par leur propre système. Ils sont devenus complètement fous et réactionnaires. Alors, pour ce qui est de notre vision de l'Europe, eh bien, notre perspective, c'est celle d'une Europe véritablement unie et sans frontières. C'est celle d'une Europe fraternelle, une Europe de la coopération entre les peuples ouverte sur le monde. C'est celle des États-Unis socialistes d'Europe. La seule issue, encore une fois, pour l'humanité est de renverser le capitalisme. C'est de renverser cette économie basée sur la recherche individuelle de profit et c'est de la remplacer par une économie visant à la satisfaction de tous. C'est d'en finir avec ces lois aveugles de la concurrence et du marché. Et c'est d'organiser, de planifier l'activité économique, de répartir le travail, de répartir les capitaux, de façon à gérer les ressources de façon rationnelle, d'éviter les gaspillages, la pollution. Et pour y parvenir, il faut exproprier la bourgeoisie des grands moyens de production et transformer les grandes banques, les groupes de l'industrie, de l'énergie, du bâtiment, des transports, les multinationales, de la distribution et du numérique en propriété collective. Entre les mains de la bourgeoisie, tout se transforme en instrument d'oppression. La robotisation, la numérisation et l'intelligence artificielle sont autant d'outils utilisés contre l'emploi et contre les travailleurs, autant d'outils pour resserrer leur emprise sur la population. Mais pensez à tout ce qu'il serait possible de faire si les travailleurs contrôlaient ces moyens fantastiques pour soulager le travail, pour diminuer considérablement le temps de travail de chacun. Et il en va de même avec les liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de la mondialisation. Ce sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus performant que jamais s'est développé. Eh bien, il faut que les travailleurs les reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Oui, un tas de choses, aujourd'hui inimaginables, deviendraient possibles et changeraient réellement la face du monde. On pourrait à nouveau mener de grands projets. Un temps, Borloo, qui cherchait sans doute une façon d'exister politiquement après avoir quitté le pouvoir, avait caressé le rêve d'électrifier l'Afrique. Pour cela, il était parti en quête de 4 petits milliards par an sur 15 ans, une somme dérisoire pour permettre à chaque village, chaque quartier d'accéder à l'électricité, avec tous les bouleversements que cela impliquerait pour les 600 millions d'Africains privés d'électricité. Eh bien, il n'a jamais réussi à les rassembler. Eh bien, pour mener à bien un tel projet, eh bien, d'autres encore. Encore une fois, il faudra la révolution et il faudra que les travailleurs soient au pouvoir. Seuls les travailleurs, seule la force collective des travailleurs recèle les capacités pour changer la société de fond en comble. Dans cette période marquée par le mouvement des Gilets jaunes, la classe ouvrière ne s'est pas mobilisée en tant que telle. Mais si la mobilisation avait touché les grandes entreprises, si celles-ci avaient été arrêtées par la grève, c'est la fabrique du profit de la bourgeoisie qui se serait stoppée immédiatement. Et si les travailleurs avaient occupé les usines, c'est la propriété privée des capitalistes qui aurait été menacée. Les travailleurs en grève auraient pu transformer leur bagne de tous les jours en des lieux de discussion et d'organisation démocratique. Ils auraient pu les ouvrir à tous les exploités des alentours, aux ouvriers des petites entreprises, aux retraités, aux chômeurs, à tous ces prolétaires isolés qui se sont retrouvés justement sur les ronds-points. Les entreprises prises en main par les grévistes seraient devenues des pôles de rassemblement, d'organisation et de direction de la lutte pour les exploités de toute une région. Et tout cela sur la base prolétarienne, c'est-à-dire avec la possibilité d'inverser véritablement le rapport de force avec la bourgeoisie. Alors cela ne s'est pas fait, mais tôt ou tard, cela se réalisera. Les explosions sociales, elles sont toujours imprévisibles. Aucun parti, aucun syndicat ne peut les déclencher. Ce sont des phénomènes de masse qui leur échappent. Une simple étincelle peut mettre le feu à la plaine, dit le proverbe. Mais personne ne peut prédire quelle étincelle le fera. Regardez l'Algérie. En Algérie, le pouvoir de Bouteflika a duré 20 ans. Il a été élu et réélu 4 fois. La dernière fois, la quatrième fois, il était déjà physiquement absent. Et puis ça a été la cinquième candidature qui a été celle de trop. Et maintenant que la population a pris conscience de sa force, eh bien il ne lui suffit plus que Bouteflika soit officiellement écarté du pouvoir. C'est tout le système qui doit dégager, comme ils disent aujourd'hui en Algérie. Alors en Algérie, le combat ne fait que commencer pour les travailleurs. Mais c'est dans ces moments de révolte profonde que bien des choses deviennent possibles. C'est dans ces moments que les prises de conscience s'accélèrent pour les opprimés, qu'ils découvrent leur force et réalisent qu'ils peuvent devenir les maîtres de la société. Les révoltes sociales, et plus encore les révolutions, sont des événements rares. Dans tous les pays industrialisés, comme dans les pays pauvres, partout où il y a une classe ouvrière, celle-ci a montré à maintes reprises de la combativité. La grande leçon des révolutions ouvrières passées, et surtout de celle qui a été l'événement le plus exceptionnel de l'histoire humaine de ces derniers siècles, la révolution russe de 1917, c'est que la classe ouvrière a besoin d'un parti révolutionnaire pour prendre le pouvoir. Pour pouvoir aller au bout de son combat, elle a besoin d'un état-major, d'un parti qui sache proposer aux travailleurs et aux masses populaires en mouvement une politique représentant leurs intérêts face aux différentes politiques de tous les partis bourgeois. Nous n'avons pas l'illusion ni la prétention d'être ce parti révolutionnaire qui permettra à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. Ce parti, il est à construire et nous voulons le construire. Et nous pouvons avancer à partir de la petite organisation que nous sommes, en nous efforçant de proposer une politique aux travailleurs dans toutes les situations, dans les grèves, dans toutes les situations sociales et dans les combats politiques, que sont les élections. Il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire connaître notre politique et pour regrouper le maximum de travailleurs autour d'elle. Et encore une fois, cette campagne électorale et le vote nous en donnent l'occasion. Alors, aidez-nous dans cette campagne. Une semaine nous sépare donc du vote. Ce seront encore 8 jours de campagne. Eh bien, 8 jours où il faut se démultiplier pour inviter les travailleurs à mettre en avant leurs intérêts immédiats, mais aussi la perspective qu'ils portent en eux, le rôle qu'ils portent en eux de transformer de fond en comble cette société. Alors, aidez-nous dans cette lutte et votez. Et faites voter contre le grand capital, le camp des travailleurs.